Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, je choisis de faire rapidement un bref récit sur la vie d'un saint. Donc il s'agit de Saint Polycarpe de Smyrne. Alors je choisis environ une fois ou deux par mois un saint afin de raconter son histoire et de voir quels sont les fruits que l'on peut tirer justement d'un saint qui est pour nous un exemple qu'il faut absolument suivre. Absolument, peut-être un grand mot, mais si l'Église catholique se donne la peine de nous donner des saints dans l'Église ou des saintes, eh bien c'est parce qu'ils sont des exemples pour nous. Donc on dit un patron. Pourquoi? Parce qu'un patron, par exemple le patron d'une chemise ou d'un jean, eh bien c'est un exemple en fait qui permet de reproduire la chemise ou le jean autant que l'on veut et qu'il soit la parfaite copie du précédent. Donc de la même des façons, dans l'Église catholique, eh bien, un patron, donc un saint patron, c'est un exemple pour nous qu'il faut suivre et reproduire, si possible. Donc pour corriger ma phrase de tout à l'heure. Et c'est très nécessaire, puisqu'ils sont pour nous des exemples de sainteté. C'est-à-dire que non pas qu'ils aient été complètement saints au point de n'avoir jamais péché, non, qu'ils n'aient jamais fauté, ce n'est absolument pas ça, mais c'est que leur vie a reflété véritablement une qualité en rapport avec l'amour que l'on doit avoir pour Dieu. Donc, pour faire suite à cette petite introduction de la nécessité de connaître un minimum la vie d'un certain nombre de saints dans l'Église ou de saintes, eh bien, nous continuons avec le récit justement de Saint Polycarpe de Smyrne. Donc, Saint Polycarpe, c'est un évêque, donc un des pères apostoliques, puisqu'il est né visiblement vers l'an 69-70, donc à Smyrne, d'où son nom Saint Polycarpe de Smyrne. Il a donc connu les apôtres, puisqu'il est né en Asie mineure, et qu'il fut, en tout cas selon ce qui est rapporté par la tradition, un des apôtres de l'apôtre Saint Jean, pardon, un des disciples de l'apôtre Saint Jean. Donc il l'a connu environ en fin de vie. Il fut évidemment très jeune, mais il fut un de ses disciples. Et c'est par la suite que Saint Polycarpe de Smyrne va s'établir à Éphèse. Donc, il a très certainement fait un passage, c'est aussi ce que rapporte la tradition, sur l'île de Patmos, où il a dû connaître l'apôtre Saint Jean à cet endroit-là, puisque c'est là que l'apôtre, eh bien, a terminé sa vie et a reçu la révélation du livre de l'Apocalypse. Alors il fut nommé évêque de Smyrne, donc son lieu de naissance. Il vécut jusqu'à l'an 155, ce qui n'était pas toujours, ce qui n'était pas à l'époque quelque chose d'habituel. Il a quand même vécu plus de 85 ans, ce qui est assez rare. Mais il est considéré, puisque c'est un très ancien père apostolique, eh bien, il est considéré comme un saint autant par l'Église catholique que par l'Église orthodoxe. Donc c'est un saint que nous avons en commun avec eux. Donc, pour continuer le récit de ce jeune saint Polycarpe de Smyrne, donc je dis ce jeune, bien parce que dans le ciel, à cette heure-ci, lui et tout l'ensemble des saints de l'Église sont tous des jeunes. Donc notre ami plutôt, saint Polycarpe, est né de parents chrétiens. Donc déjà à ce moment-là, eh bien, la foi chrétienne avait commencé à se répandre. Et donc déjà à ce moment-là, on pouvait naître de parents chrétiens, déjà en l'an 69-70 de notre ère. Mais pourquoi je choisis aujourd'hui de faire le récit de ce saint de l'Église? C'est parce que, dans un premier temps, même si nous allons raconter l'ensemble de sa vie, eh bien, le point le plus important, c'est que déjà dans sa vie, alors que on était encore au premier siècle de l'ère chrétienne, eh bien il commençait déjà à ce moment-là à naître des sectes qui étaient hérétiques. Et donc, Saint Polycarpe combattait ces sectes-là. Donc évidemment, il le combattait sur le plan des arguments et non pas avec une arme. Et donc déjà à cette époque-là, il y avait des hérésies qui avaient émané, qui ont émané, pardon, de directement du christianisme ou alors des hérésies qui étaient extérieures. Alors il y avait notamment l'hérésie de Marcion, qui est aussi très combattue dans les arguments par Saint Jean Chrysostome, comme on peut le voir dans les textes que nous mettons en ligne, alors Saint Polycarpe, c'est véritablement, on peut dire, un des ministères de sa vie, qui fut déjà à ce moment-là, à ce moment-là, il n'y a pas encore eu de véritable concile œcuménique, plutôt de concile tout simplement, parce que, à part le concile que l'on peut retrouver dans le Nouveau Testament, qui concerne déjà les apôtres, qui devaient statuer sur certains points, il n'y a pas eu de concile plutôt majeur, majeur comme le concile de Nicée qui va suivre quelques siècles après. Donc, il y a déjà un combat qui se fait contre l'hérésie. Donc c'est quelque chose qui peut nous étonner, puisqu'on s'étonne de voir que sitôt, eh bien l'hérésie avait commencé à exister au sein même, quelquefois, du christianisme et en dehors, plus principalement. Donc c'est quelque chose qu'il faut interpréter correctement. Il faut bien savoir que de toujours, de tout temps, eh bien l'hérésie a existé. Et donc tous les chrétiens doivent absolument avoir un minimum de connaissances, donc se former un minimum sur la foi catholique pour ne pas tomber dans le piège des hérésies qui nous guettent tout au long de notre histoire et qui se présentent sous différentes formes. Donc aujourd'hui, elles ne sont pas toujours sous la forme religieuse. Donc elles peuvent avoir des fois une certaine nuance et une certaine subtilité. Alors, durant sa vie, notre ami et saint Polycarpe de Smyrne, eh bien, a connu aussi la persécution. C'est aussi un autre point qui est presque commun à tous les saints, c'est qu'il a connu la persécution. Il a donc été persécuté, et même par une persécution qui a été commanditée par l'empereur Marc Aurèle, qui était d'ailleurs aussi un philosophe. Donc, encore une fois, ce n'est quelque chose qui pourrait faire l'analogie avec notre époque. Eh bien, même aujourd'hui, nous avons encore des philosophes qui, entre guillemets, persécutent des chrétiens sur le plan des idées et qui se permettent quelquefois de vouloir aller encore plus loin dans la persécution. Et quand cette persécution commence, à ce moment-là, avec Saint Polycarpe, eh bien, il est très âgé. Alors, je l'appelle Saint Polycarpe en racontant sa vie durant son vivant, donc je devrais normalement ne pas utiliser le mot saint, puisqu'à ce moment-là, il n'est pas encore canonisé. Donc je vais essayer de ne pas faire l'erreur par la suite dans le récit, mais parce que nous avons l'habitude de l'appeler Saint Polycarpe, puisque quand on parle de lui, eh bien, on parle de lui, évidemment, en temps présent, aujourd'hui. Alors je vais parler aussi, eh bien, de l'exécution, donc la mort de Polycarpe à ce moment-là. Il est donc brûlé vif, comme on l'a dit tout à l'heure, vers l'an 155. Et donc je vais relire un texte qui nous est donné et qui parle justement du martyre de Saint Polycarpe. Donc le récit donne ceci. À l'entrée de ce saint vieillard dans l'amphithéâtre, tous les chrétiens présents entendirent une voix mystérieuse qui lui disait: Courage, Polycarpe, combat en homme de cœur. Le proconsul lui demanda: Es-tu Polycarpe? Oui, je le suis. Aie pitié de tes cheveux blancs, maudit le Christ, et tu seras libre. Il y a 86 ans que je le sers, et il ne m'a fait que du bien. Comment pourrais-je le maudire? Il est mon Créateur, mon roi et mon sauveur. Sais-tu que j'ai des lions et des ours tout prêts à te dévorer? Fais-les venir. Puisque tu te moques des bêtes féroces, je te ferai brûler. Je ne crains que le feu qui brûle les impies ne s'éteint jamais. Fais venir tes bêtes, allume le feu, je suis prêt à tout. De toutes parts dans l'amphithéâtre, la foule sanguinaire s'écrie: Il est digne de mort, Polycarpe, au lion! Mais les combats des bêtes féroces étaient achevés, on arrêta qu'il sera brûlé vif. Comme les bourreaux se préparaient à l'attacher sur le bûcher, il leur dit: C'est inutile, laissez-moi libre, le ciel m'aidera. Le saint lève les yeux au ciel et prie. Tout à coup, la flamme l'environne et s'élève par-dessus sa tête, mais sans lui faire aucun mal, pendant qu'un parfum délicieux embaume les spectateurs. À cette vue, les bourreaux lui percent le cœur avec une épée. Selon l'abbé Jo, c'était le 25 avril 167. Alors, ce texte-là, donc qui apparemment a été écrit le 25 avril 167. En tout cas, pas écrit, pardon, à cette date-là, mais il a été rapporté que cet événement s'est passé en 167. Donc on a un petit décalage par rapport à la date que nous avons donnée, mais c'est normal. À cette époque-là, les dates de décès, eh bien, ne sont pas tout à fait exactes. Nous sommes à 10, 15, quelquefois 20 ans près, mais au moins on arrive à situer l'époque. Mais ce que l'on peut remarquer dans ce récit, c'est que de nouveau, il y a de la part de Polycarpe un sang-froid extraordinaire. Il est dans un amphithéâtre avec des centaines de personnes qui sont en train de demander son exécution. Et lui, plein de sang-froid, eh bien non seulement ne maudit pas le Christ, mais en plus n'a même pas peur de la sentence, du terrible châtiment qui l'attend. Donc quand on voit cet homme, plutôt pour parler du proconsul, celui qui dit à Polycarpe, aie pitié de tes cheveux blancs, maudis le Christ et tu seras libre. Eh bien, on ne peut pas, eh bien, ne pas penser au récit dans l'Évangile où Satan propose à Jésus de l'adorer ne serait-ce qu'une fois. Donc, on voit bien que ces hommes qui font le mal, eh bien même sans le vouloir, plutôt, pardon, sans forcément le savoir, eh bien, reproduisent exactement ce modèle que l'on peut retrouver dans l'Évangile à plusieurs reprises, qu'incarne Satan, donc le mal véritablement en tant que tel. Donc il y a plusieurs types de mots, MAUX, mais il y a le mal en lui-même, qui peut être représenté de différentes façons. Et là, on voit que cet homme, peut-être qu'il ne le sait pas à ce moment-là, il ne connaît peut-être pas les Écritures, et bien il reproduit exactement un schéma que l'on retrouve dans l'Évangile. Et donc, malgré lui, il nous prouve que l'Évangile est véritablement intemporel et que elle dit la vérité, puisque tout simplement, ce qui nous est écrit dans ce livre, si l'Écriture est éternelle et intemporelle, eh bien, elle doit se reproduire dans des situations analogues, et c'est ce qu'on retrouve à ce moment-là. Alors, je vais terminer le récit du martyre de Polycarpe en lisant ceci. Donc, c'est un texte qui nous est donné et qui indique que non seulement Polycarpe a été véritablement quelqu'un de très courageux, mais qu'en plus, il n'a pas renié sa foi, ce qui est très important. Il l'a de nouveau attesté en disant ceci: Je suis chrétien. C'est ce qui est rapporté dans le texte qui dit: Polycarpe a avoué qu'il est chrétien. La déclaration du héros mit en fureur toute la foule des païens et des juifs qui résidaient à Smyrne. Les cris éclatèrent. C'est lui, le maître de l'Asie, le père des chrétiens, le fossoyeur de nos dieux. C'est lui qui incite les foules à ne plus sacrifier ni adorer. Au milieu de leurs hurlements, ils demandaient à l'Asiarque Philippe de lâcher un lion sur Polycarpe. Mais il objecta qu'il n'en avait plus le droit parce que les combats de fauves étaient clos. Alors, d'une seule voix, ils réclamèrent que Polycarpe périt par le feu. Il fallait en effet que s'accomplît la vision qui lui avait montré son oreiller en flammes, tandis qu'il priait, et qui lui avait arraché devant ses amis ce mot prophétique: Il faut que je sois brûlé vif. Les événements se précipitèrent en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. La foule se rua dans les ateliers et dans les bains pour ramasser du bois et des fagots. Les Juifs s'acquittaient de la besogne avec leur zèle habituel. Quand le bûcher fut prêt, le martyr retira lui-même tous ses vêtements. Il détacha sa ceinture, puis commença à se déchausser, geste dont les fidèles le dispensaient toujours. Dans la patience où ils étaient de toucher son corps, tous se précipitaient pour l'aider. Bien avant son martyre, la sainteté de sa conduite inspirait cette unanime révérence. Alors ce texte qui nous est donné, qui donne encore plus de détails, qui nous est donné justement par Bruno Chenu, dans le livre des martyrs chrétiens, eh bien, cela nous donne encore plus véritablement de détails sur non seulement le sang-froid qu'a eu Saint Polycarpe, mais qu'en plus, il vit dans un rêve, dans un songe, ce qui allait lui arriver. C'est quelque chose aussi qui arrive très souvent à tous ceux qui vont connaître, eh bien, une fin, on va dire, semblable, toute proportion respectée, à celle qu'a connue le Christ. Donc, ils vont rentrer dans la gloire du Christ en passant par la croix. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire de voir que déjà à ce moment-là, Nous sommes au premier, au deuxième siècle, pardon, au milieu du deuxième siècle, mais cet homme est né au premier siècle. Eh bien, on voit déjà quelque chose d'extraordinaire, une foi dans le Christ. Et nous, qui sommes 2 millénaires plus tard, à peu près, eh bien, quelquefois nous doutons. Quelquefois, on se pose des questions. Et on se dit qu'il manque peut-être des informations, on n'en sait pas assez sur ce christianisme, on n'en sait pas assez sur ce Jésus, ou alors les choses sont tronquées, puis ça s'est passé il y a longtemps. Mais non, regardez ces hommes, comment ils ont agi. Regardez avec quel zèle et avec quel courage, eh bien, ils ont été portés par l'amour de Jésus à affronter des choses terribles. Nous avons vu les récits d'autres saintes, des fois de jeunes filles de 12-13 ans, je pense notamment à sainte Blandine, qui n'a même pas eu peur, alors que la mort était là devant elle, elle qui était toute jeune. Eh bien, ce sang-froid, véritablement, ce n'est pas de la folie, c'est véritablement du sang-froid, c'est-à-dire qu'il y a un calme, une tempérance, qu'il y a une maîtrise de soi qui n'est pas naturelle. C'est forcément quelque chose qui est donné par le ciel, c'est forcément quelque chose de surnaturel. Il ne faut pas avoir peur d'utiliser les mots. C'est très simple, on ne peut pas, face à une telle scène, une telle mort qui nous attend, garder un tel sang-froid au point que même Polycarpe, tel que le rapporte le récit, eh bien, retire ses vêtements tout naturellement et dit très simplement au proconsul, eh bien, amenez-moi vos fauves, amenez-moi votre feu. Donc, je vais simplement citer Irénée, donc saint Irénée, qui a beaucoup parlé de Polycarpe. C'est important de citer, je pense, d'autres chrétiens qui ont vécu à cette époque. Cela apporte non seulement des détails supplémentaires, mais aussi une authenticité pareille, supplémentaire. Et donc il ne faut absolument pas mettre de côté ces sources qui sont très précieuses pour en savoir un peu plus. Alors je vais citer Irénée dans sa lettre à Florinus, qui indique ceci. Je me souviens que quand j'étais encore enfant dans l'Asie inférieure, où tu brillais alors par ton emploi à la cour, je t'ai vu près de Polycarpe, cherchant à acquérir son estime. Je me souviens mieux des choses d'alors de ce qui est arrivé depuis, car ce que nous avons appris dans l'enfance croît dans l'âme, s'identifie avec elle, si bien que je pourrais dire l'endroit où le bienheureux Polycarpe s'asseyait pour causer, sa démarche, sa physionomie, sa façon de vivre, les traits de son corps. Sa manière d'entretenir l'assistance, comment il racontait la familiarité qu'il avait eue avec Jean et les autres qui avaient vu le Seigneur, et ce qu'il leur avait entendu dire sur le Seigneur et sur ses miracles et sur sa doctrine, Polycarpe le rapportait comme l'ayant reçu des témoins oculaires du Verbe de vie, le tout conforme aux Écritures. Alors, Irénée, dans ce texte, nous confirme justement, eh bien, déjà dans un premier temps, la simplicité de Polycarpe, mais aussi sa proximité avec saint Jean et d'autres disciples. Mais visiblement, il était plus particulièrement le disciple d'un des apôtres, donc saint Jean. Alors je vais encore une fois utiliser un autre texte d'Irénée qui dit ceci. Et Polycarpe, non seulement il était instruit par les apôtres et a vécu avec beaucoup de ceux qui ont vu notre Seigneur, mais c'est encore par les apôtres que dans l'église de Smyrne en Asie, il a été constitué évêque. Nous-mêmes l'avons vu dans notre premier âge, car il a vécu longtemps et était tout à fait vieux lorsqu'il est sorti de cette vie par un très glorieux et illustre martyr. Or, il a toujours enseigné ce qu'il avait appris des apôtres, cette doctrine que l'église aussi transmet, et qui est la seule vraie. Toutes les églises qui sont en Asie l'attestent et tous ceux qui, jusqu'à ce jour, ont succédé à Polycarpe, un tel homme est un témoin de la vérité autrement sûre et digne de foi que Valentin, Marcion et tous les autres qui pensent de travers. Donc dans ce texte, Irénée confirme de nouveau qu'il y avait des hérésies qui ont été menées, notamment par Valentin, Marcion ou autres, et que, eh bien, saint Polycarpe les combattait. Évidemment, de nouveau, il est important de le préciser par les arguments. Alors, de nouveau, Irénée nous confirme que saint Polycarpe, eh bien, a été instruit par les apôtres. Donc, il a été certainement un disciple d'un des apôtres en particulier, mais ça n'empêche pas qu'il ait connu les autres apôtres, qui étaient très liés ensemble, et donc il ait reçu aussi des enseignements de leur part, et plus important encore, c'est eux-mêmes qui l'ont constitué évêque. C'est très très important, ça montre bien que il n'y a pas, depuis le début de l'Église, donc depuis la descente du Saint-Esprit lors de la Pentecôte avec les apôtres, une discontinuité dans la mise en place des évêques. C'est-à-dire que déjà à l'époque des apôtres, qui ont été choisis par Jésus lui-même, eh bien, eux-mêmes ont pris soin de choisir les évêques, donc leurs propres descendants spirituels. Eh bien, aujourd'hui, pour ceux qui n'ont jamais assisté à une ordination, on remarque que cette transmission, véritablement, qui n'a connu aucune rupture depuis 2000 ans, se fait aujourd'hui par une intronisation, par une cérémonie qui, évidemment, a évolué liturgiquement depuis 2000 ans, mais qui, à l'époque, déjà, on peut le lire dans le Nouveau Testament, dans l'Acte des Apôtres, se faisait par imposition des mains. Donc c'était la demande, l'appel de l'Esprit-Saint qui venait, descendait et était transmis véritablement, on peut le dire, par l'intermédiaire de l'apôtre à l'époque. Donc des apôtres qui ont choisi l'évêque de Smyrne, donc Saint Polycarpe. C'est très important parce que lui-même, Saint Polycarpe, on en est certain puisque cela se fait comme ça depuis 2000 ans et les textes l'attestent, a lui-même aussi choisi d'autres évêques. Et donc, par imposition des mains, etc., etc., jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que, jusqu'à aujourd'hui, quand vous assistez à une ordination, que ce soit d'un prêtre, d'un évêque, eh bien, pareil, il y a imposition des mains de la part de l'ensemble des prêtres, ou d'un évêque, ou des... Bien, quand vous assistez à ces cérémonies, pour ceux qui n'ont jamais assisté, pour ceux qui ont même déjà assisté, eh bien, quand ça se fait par exemple en France, je vais prendre le cas de Paris par exemple, eh bien tous les prêtres et l'évêque de Paris sont présents lors de l'ordination d'un prêtre et tout se passe avec leurs mains apposées très légèrement au-dessus de la tête du futur prêtre. Et c'est comme ça que se fait la transmission de l'apostolat, on peut le dire, depuis que Jésus a choisi les apôtres. Et de manière continue depuis 2000 ans. Donc déjà à l'époque c'est ainsi que cela se faisait, c'est pour ça que ce détail est très important à retenir pour ne pas oublier que l'Église catholique eh bien trouve sa source dans Jésus. Pour ne pas oublier que ce n'est pas qui le veut qui peut choisir de la façon qu'il le veut tel prêtre ou tel évêque. Non. Cela se fait depuis 2000 ans de la même façon. Et cela se fait par l'intermédiaire de l'Église qui est aussi le corps du Christ. Alors, pour ne pas être très long, je vais terminer sur cela. Et par une toute petite citation que nous avait donnée Irénée et qui a été donnée dans une lettre au pape Victor qui disait ceci. Anicète ne pouvait pas persuader Polycarpe de ne pas observer ce que, avec Jean, le disciple de notre Seigneur et les autres apôtres, avec qui il avait vécu, il avait toujours observé. C'est-à-dire, ce que vous nous dire, Irénée, c'est que personne ne pouvait contraindre ou persuader eh bien, Polycarpe d'enseigner ou de mettre en application ce qu'il lui a été transmis de la part des apôtres. C'est aussi une des qualités que nous devons garder, nous, en tant que chrétiens, à savoir ne pas avoir peur d'assumer notre foi catholique. Ne pas avoir peur de dire que nous, catholiques, nous croyons en ceci, nous croyons en cela, parce que cela nous est enseigné par la tradition, tout simplement parce que la tradition est vivante. La tradition, on ne l'obtient pas dans un petit livre caché, ou alors un livre où le sens du texte est caché, qui ne peut être donné que par une élite. Non, la tradition est vivante. Elle se fait depuis 2000 ans par l'intermédiaire de l'Église grâce à l'Esprit-Saint et donc par l'intermédiaire des hommes qui composent cette Église. C'est important aussi à comprendre. Donc, ce qu'on peut conclure du récit de Saint Polycarpe, c'est à la fois d'assumer notre héritage spirituel, qui est donc la tradition de l'Église catholique, d'assumer notre histoire dans ses plus beaux moments, et dont ces erreurs, qu'il faut bien préciser, ont été corrigées et n'ont pas été refaites. C'est ça le plus important. Parce que tout le monde peut faire des erreurs, même l'Église, parce qu'elle est à la fois comme Jésus, c'est-à-dire 100% divine, mais aussi 100% humaine. Donc sur le plan humain, nous sommes faillis, mais sur le plan de la foi, l'Église est infaillible. Parce que c'est ce qui est le plus important, c'est le domaine que Jésus, par l'intermédiaire de l'Esprit-Saint, souhaite gérer, parce que le côté humain, eh bien, c'est quelque chose qui, par définition, est voué à l'erreur. Mais grâce à l'Esprit, eh bien, nous pouvons corriger ces erreurs-là. Et l'Esprit, lui, pour pouvoir corriger les erreurs, doit rester intact. C'est important. Et donc, c'est l'Esprit-Saint lui-même qui y veille, avec, évidemment, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il faut garder à l'esprit que, dès le début du christianisme, il y avait une certitude, une véritable certitude de ce qu'ont accompli non seulement les apôtres grâce au Christ, mais le Christ lui-même. Et donc, il y avait une certitude qu'il fallait continuer, préserver, transmettre cette foi, transmettre et reproduire, évidemment, en actes et en paroles, la vie de ceux qui nous ont aidés à avancer dans la vie chrétienne. Il ne faut pas tomber dans le piège de notre époque, qui est de croire que nous sommes tous libres, et que finalement, quand quelque chose ne nous plaît pas, on recommence tout de zéro. Comme si nos ancêtres, ou ceux qui sont plus grands que nous et qui veulent nous apprendre, et nous instruire, eh bien, sont dépassés, sont d'une autre époque. Non, c'est complètement faux. Nos ancêtres ne sont pas plus bêtes que nous. Nos ancêtres ont fait des erreurs qui sont équivalentes au savoir qu'ils avaient à ce moment-là, mais aussi à leur époque. On ne peut pas en vouloir à des hommes, eh bien, d'avoir pensé que la Terre est plate. Parce qu'ils n'avaient pas encore à ce moment-là des moyens, eh bien, de pouvoir vérifier si c'était vrai ou pas, parce qu'il faut évidemment des moyens. Donc, ils n'étaient pas plus bêtes que nous, mais ils faisaient en fonction de ce qu'ils avaient à leur, eh bien, à leur disponibilité. Pardon, à leur disposition. Et donc, ce qui était disponible pour eux, eh bien, c'est ce qu'ils, les outils qu'ils avaient à portée de main, c'est ce qu'ils utilisaient véritablement pour pouvoir tirer des conclusions. Donc il faut garder ce qu'on nous instruit, garder l'héritage, sans forcément être des perroquets, mais il faut garder l'esprit au moins, garder le contenu, essayer d'avancer, puisque ce n'est pas interdit, mais il faut respecter ce qui nous est transmis par l'Église, parce que c'est un trésor véritablement. Et c'est comme cela que l'Église avancera. C'est comme ça, d'un côté, que l'Église se préservera, mais il faudra aussi compter sur des initiatives pour qu'elle puisse avancer. Mais elle ne pourra pas avancer si elle choisit de faire comme on peut le voir aujourd'hui à notre époque, et bien de vouloir toujours tout recommencer dès le début, de zéro, comme on peut le voir aujourd'hui, dès qu'une génération a des idées ou des idéologies, elle choisit de faire complètement l'inverse de ce que la génération précédente a fait en pensant qu'elle était dans l'erreur. C'est une erreur. Non. Ce qui est bon, ce qui marche, ce qui est authentique, il faut le perpétuer. Il faut absolument le préserver, quitte, eh bien, à être seul contre tous qui sont peut-être dans l'hérésie, très simplement, comme ce fut le cas pour Saint Polycarpe qui s'est retrouvé dans cette situation-là, être peut-être un des seuls parmi une communauté qui disait non, il faut adorer les idoles, il faut sacrifier pour les différentes divinités. C'est une des revendications que ces bourreaux ont lancées dans l'amphithéâtre, comme on vient de le lire. Donc il ne faut pas avoir peur. Nous sommes tous, en tant que chrétiens, eh bien, soumis à ce genre de tentation, à ce genre de défi, pour toutes les époques. Donc ça a été aussi l'intérêt pour moi de faire le récit de Saint Polycarpe pour montrer que les choses n'ont pas changé. Et que, pour trouver eh bien, un exemple, afin de rester dans la voie, et de voir de quelle façon nous devons agir, eh bien, faisons comme Saint Polycarpe. Il faut absolument rester ferme, rester chrétien, jusqu'au bout. Et ne pas oublier que, dans cette vie, malheureusement, eh bien, plutôt heureusement, puisque comme l'a indiqué, comme il a été indiqué dans ce texte, eh bien, Polycarpe est passé par une glorieuse, véritablement un glorieux martyr. Il ne faut pas avoir peur de dire que nous, en tant que chrétiens, nous n'avons pas peur d'être mal vus par nos contemporains qui sont dans l'erreur. Et nous devons garder aussi un sang-froid, parce que il faut pas tomber dans la colère ni dans la haine du prochain, bien au contraire, il faut prier pour ces personnes. C'est pour ça que le Christ a mis l'accent sur ça. Il savait que nous allons passer par des époques où il y aurait un paradoxe pour nous. Nous serions détestés, mais nous devrons les aimer. C'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit pour ne pas tomber dans les pièges du démon, pour rester de bons chrétiens. Donc, n'ayez pas peur de vous instruire, n'ayez pas peur d'assumer l'histoire de l'Église et sa tradition, n'ayez pas peur d'être des chrétiens affermis, des chrétiens qui se forment, des chrétiens qui lisent, des chrétiens qui servent, des chrétiens qui aiment, des chrétiens qui préfèrent le Christ à la mondanité.